si vous avez adoré le Moyen-Âge, vous allez adorer la période actuelle, car en ce moment, notre monde fourmille de controverses théologiques dignes du Moyen-Âge. En voici une, par exemple, des évangélistes se demandent gravement aux États-Unis si l'homosexualité est halal ou à peu près. Alors c'est vrai, il y a un progrès. Il y a 9 siècles, on ne se serait pas embarrassé avec le droit des gays, on les aurait mis sur un bûcher pour pouvoir réfléchir tranquillement. Aujourd'hui, c'est différent. Cette réflexion se déroule paisiblement en première page du New York Times et voici donc sur 2 colonnes à la une un grand débat théologique. Alors vous savez comment c'est les débats théologiques et que je te cite les évangiles et que dans la Bible il est dit que les hommes et les femmes sont des moitiés d'être et c'est pour cela qu'ils sont voués à s'accoupler. Un bon argument certes, mais que fait-on de Sodome et Gomorre, se demandent d'autres théologiens. C'est une bonne question ça, hein. Pourquoi la ville de Sodome et Gomorre a-t-elle été détruite? Parce que ses habitants pratiquaient l'homosexualité? Parce qu'ils n'avaient pas obtenu de permis de construire? Ou bien, comme l'explique un pasteur, parce qu'ils refusaient l'hospitalité aux étrangers? Entre nous, si Sodome et Gomorre a été détruite parce que ses habitants refusaient d'accueillir les étrangers, je ne donne pas cher de la France de François Hollande, mais je m'écarte du sujet. Car mon vrai sujet le voici, comment peut-on tranquillement exposer aujourd'hui des raisonnements qui auraient fait hausser les épaules de nos ancêtres au XXe siècle? Vous savez, à l'époque, quand nous étions laïcs. Ces controverses théologiques sur les anges de même sexe ont existé dans toutes les religions. Je me souviens par exemple de Rabbi Moïse ben Eliezer, qui a passé sa vie à essayer de savoir si un poulet dénué de cœur, et donc d'un système sanguin normal, pouvait être considéré comme cachère. Vous vous demandez pourquoi je vous raconte toutes ces histoires médiévales? Eh bien, pour vous distraire un peu en attendant la Renaissance.
France Inter, service public, Guillaume Erner.
Et puis on continue avec d'autres controverses, des controverses philosophiques qui sont en ligne d'ailleurs avec la réflexion théologique. Nous sommes en compagnie d'Adèle Von Rett, bonjour.
Bonjour.
Adèle Von Rett, vous êtes productrice et animatrice des Nouveaux Chemins de la Connaissance sur France Culture. Vous avez publié un certain nombre d'ouvrages ayant trait au bac philo et vous avez actuellement proposé à vos auditeurs un spécial bac philo téléchargeable sur le site de France Culture. Nous sommes également en compagnie de Patrick Grenacia. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé de philosophie. Vous animez le blog Philozen sur l'étudiant.fr pour les élèves de terminale. Donc, et vous avez notamment publié Citation pour le bac et Objectif mention aux éditions de l'étudiant. La maman de Hyacinthe, qui est des nôtres aussi, Élise Sultan, qui est professeur de philosophie dans le 94 et qui a publié Je sais philosopher aux éditions Ellipse. Et enfin, notre camarade Thibaut de Saint-Maurice. Bonjour. Vous êtes le philosophe du dimanche. On vous en on vous écoute tous les dimanches matin sur France Inter à 6h47 et vous êtes également chroniqueur dans l'émission Pop Fiction d'Ali Rebéi. Vous avez publié Philosophie en série, aux éditions Ellipse. Et puis alors vous avez une caractéristique commune avec Patrick Grenacia, vous avez participé à l'élaboration des sujets du bac, des sujets de philo. C'est si compliqué que ça, Patrick Grenacia, de faire un sujet de philo?
Ah oui, c'est assez compliqué parce que si vous jetez un coup d'œil sur Internet, il m'arrive d'essayer de trouver un nouveau sujet, c'est quasiment impossible. Tous les sujets sont déjà sortis d'une manière ou d'une autre, donc soit il faut essayer de les reformuler, soit inventer un nouveau sujet de philo aujourd'hui, c'est mission impossible.
Ah, tout est dit et l'on vient trop tard, mais si on pose une question qui a déjà été posée, est-ce que c'est
ça peut arriver, mais normalement, les sujets sont nouveaux, avec des petites inflexions dans la formulation, c'est ce qu'on essaye de faire, mais...
Comment s'y prend-on concrètement, Thibaut de Saint-Maurice, pour fabriquer un sujet de philo?
Alors c'est assez compliqué, il y a une procédure très longue d'abord. C'est pour ça que d'ailleurs quand on demande si tel événement récent d'actualité va influencer le choix des sujets, ben c'est toujours un peu une question piégée parce que en fait les sujets parfois mettent 8 mois, 10 mois à être élaborés. Donc en gros, dans chaque académie, il y a des inspecteurs qui réunissent des commissions qui vont proposer des sujets. Donc c'est des commissions de profs de philo qui vont proposer des sujets. Puis après, il y a des commissions pour examiner ces sujets. Après, il y a ce qu'on appelle le cobayage. Le cobayage, c'est-à-dire qu'il y a des profs qui vont tester les sujets, voir si finalement, en les faisant, ça se révèle pas trop difficile ou voilà.
C'est quoi un sujet trop difficile en philo?
Alors, vous nous direz après aussi, mais un sujet trop difficile, ça serait un sujet, par exemple, qui demanderait aux élèves de terminale par exemple, qui présupposerait chez l'élève de terminale plus de connaissances ou plus de méthodes qu'il n'aurait pu en acquérir dans les 9 mois, on va dire, de formation initiale. Et puis un sujet aussi qui serait peut-être un petit peu trop déroutant sur sa forme.
Sachant quand même, on peut rassurer les auditeurs tout de suite, ceux qui nous écoutent, qui sont en train de préparer l'épreuve de bac ou même leurs parents, c'est peut-être plus probable, je sais pas, que le mot soit, en tout cas soit dit. Voilà, le but de l'épreuve au bac et donc de la formulation, de l'élaboration des sujets, c'est pas de piéger les élèves, c'est de faire en sorte qu'ils puissent, en analysant le sujet, proposer une réflexion qu'ils auront appris à élaborer pendant l'année. Donc c'est pour ça que les sujets n'ont pas être forcément originaux, même s'ils ne doivent pas se ressembler. Le but n'est pas de créer de la nouveauté à partir des sujets. Et deux, un sujet trop difficile, a priori, ne sera jamais proposé parce qu'on se base sur le programme d'enseignement au cours de l'année. Donc il faut démythifier cette complexité des sujets de philo.
Élie Sultan.
Oui, tout à fait. Normalement, les sujets sont évalués comme étant faisables par les élèves de terminale et il n'y a pas de sujet piège dans ce sens-là. De toute façon, il y a le choix entre 3 sujets. Donc aussi bien si un élève trouve un sujet difficile, il peut prendre les 2 autres.
Les sujets qui font peur, c'est par exemple un mot, un verbe. Expliquer, ça c'est un sujet difficile.
Alors expliquer, c'est le verbe qui est tombé là cette année au concours d'entrée à l'ENS. Et donc il y a eu beaucoup de polémiques autour de ce terme, disant mais c'est beaucoup trop compliqué, on peut pas le traiter. En fait, ça demande simplement une méthode particulière qui n'est pas enseignée en terminale, enfin sauf erreur de ma part. Mais parce que vous savez bien, en épreuve de dissertation, il faut trouver la problématique. Et c'est toujours plus facile à faire quand on voit la question qui est posée, qu'on en trouve une autre, qu'on fait jouer ensemble de notions. Un seul mot, comment est-ce qu'on s'y prend? Normalement, quelqu'un qui allait en prépa, il peut avoir les méthodes.
Mais donnez-nous un peu des pistes, Adèle.
Ah, mais vous voulez ça? Mais on va voir si vous pouvez avoir le concours de l'entrée à l'ENA. C'est surtout ça qui est intéressant.
Mais non, mais moi, c'est sûr que je ne peux pas l'avoir. Mais vous pouvez nous expliquer ce qu'on fait. Si on tombe sur un mot comme expliquer, comment procède-t-on?
Alors, en principe, je voulais préciser.
C'est dégonflé.
Ah non, je veux bien, je vais laisser la parole. Je vous fais l'explication.
Il faut pas effrayer les candidats quand même. Un sujet comme expliquer est réservé aux normaliens de normal sup, hein, au bac depuis de nombreuses années.
À ceux qui veulent y aller.
Les sujets du bac depuis de nombreuses années ne donnent plus un mot ou des notions comme ça isolées. Ils ne donnent que des questions. En toute fait, les notions isolées sont réservées maintenant au concours de normal sup ou du CAPES ou de l'agrégation, mais pas pour le baccalauréat.
Moi, je connais pas les sujets qui vont tomber, hein, mais je peux vous garantir, je mets mes 2 mains à couper. Que les 2 sujets de dissertation, ce seront des questions lesquelles il y aura au moins 1 ou 2 notions explicites du programme de terminale. Donc dans le programme de terminale, il y a toujours des notions comme désir, liberté, justice, etc. Ben moi, je vous mets mes mains à couper que dans les 2 sujets de dissertation, on retrouvera ces concepts. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec Adèle. Le but, c'est pas de piéger, c'est justement de donner un peu des clignotants aux candidats, de leur dire voilà, on vous pose une question sur une forme que vous connaissez, votre prof vous a donné une méthode pour transformer cette question en problématique et en plus, vous allez y repérer les notions du programme que vous avez vu en cours.
Alors si le terme d'expliquer ne tombera jamais tel quel au bac cette année, en revanche, il peut faire partie d'une formulation d'un sujet. Comment expliquer, pouvons-nous expliquer certains comportements humains? C'est-à-dire que là, à partir de là, il faudra s'intéresser au verbe lui-même. Expliquer, c'est bien déplier la pensée. Ça implique une réflexion sur l'activité même de philosopher. C'est pour ça que c'est très difficile de le faire en terminale, ou rappelons-le quand même, les élèves ont quelque chose de héroïque. Ils ont passé 9 mois à découvrir des textes de philo, des auteurs qu'ils n'avaient jamais lus, travailler sur des concepts et des notions qui leur étaient étrangères, et on leur demande de faire une dissertation dont la méthode est très compliquée, et de recevoir une note à partir de ça. Donc bravo aux élèves déjà.
Après les vrais salaires des cadres, nous allons vous donner les vrais sujets du bac philo. Je veux surtout pas vous obliger à écouter la suite de cette émission, mais on va en parler tout de suite après. Flavien Berger, Gravité, un disque choisi par Olivier Bétard et Thierry Dupin.
Service public 01 45 24 7000 ou sur franceinter.fr.
Sous la lune, je suis sous la lune dans la nuit, mais nous deux c'est un peu compliqué.
Service public sur France Inter, il est question du bac philo, on en parle du bac philo, en compagnie d'Adèle Von Redt qui est productrice et animatrice des Nouveaux Chemins de la Connaissance sur France Culture qui propose un spécial bac philo téléchargeable sur le site de France Culture. Élise Sultan, prof de philo, qui a notamment publié « Je sais philosopher » les 10 meilleures dissertations de philo. Patrick Grenassia qui est également professeur agrégé de philo et qui anime le blog Philozen. Et enfin Thibaut de Saint-Maurice qui est le philosophe du dimanche, tous les dimanches matins sur France Inter à 6h47 et le samedi soir dans l'émission Pop Fiction. Il y a une sorte de mythologie des fuites du bac, à voir les vrais sujets. Alors avec les réseaux sociaux, évidemment, beaucoup de gens s'en donnent à cœur joie. Est-ce possible d'avoir des fuites, Thibaut de Saint-Maurice?
Je pense que c'est surtout possible d'avoir des envies de fuite, si je peux me permettre, au sens où il y a beaucoup d'élèves qui, effectivement, aimeraient connaître les sujets en avance, évidemment. Bon. Moi, je pense que, c'est un peu la rumeur qui court, voilà. Il faut aussi savoir que s'il y avait réellement une fuite, c'est-à-dire si vraiment il y a un sujet qui sortait avant, il y a toujours des sujets de secours. Et donc, si l'éducation nationale se rend compte qu'il y a une vraie fuite qui est sortie une semaine avant ou quoi, il est pas du tout sûr que, enfin il est même improbable que les élèves tombent dessus, il y aura le sujet de secours qui sera sorti.
Puis surtout que la fuite, c'est la fausse bonne idée, se dire on va préparer le bac en révisant avec des sujets probables et dont on est presque sûr qu'ils vont tomber parce qu'ils ont fuité. Parce que être prêt pour un sujet qui est déjà tombé, qui risque de tomber, si c'est autre chose le jour du bac, on sera pas du tout prêt. Parce que par définition, l'épreuve du bac, c'est traiter le sujet en question et pas un autre. Donc ça sert à rien d'essayer de se dire, de faire des pronostics. Mieux vaut être arrivé détendu, concentré le jour de l'épreuve pour traiter le sujet qu'on a devant soi.
Patrick Grenassia.
Les fuites sont rarissimes, elles ne sont pas impossibles. Il faut avoir conscience que le ministère déploie l'équivalent de fourgons blindés pour transporter les sujets qui sont enfermés dans des coffres forts. Donc il faudrait vraiment une république.
Vous avez commencé, on peut toujours en oublier dans une photocopieuse. Hein,
oui, ça ou détourner un fourgon blindé de l'éducation nationale éventuellement. Non, ce qui est surtout vrai par contre, c'est qu'on peut avoir des coups de chance et tomber sur un sujet qu'on a traité plus ou moins avec son professeur pendant l'année. Et ça, c'est le coup de bol qu'on peut avoir à un concours ou un examen. Ça peut arriver.
Je pense que c'est pas vraiment un coup de bol que de retomber sur le même sujet, parce qu'on va être tenté en tant qu'élève de recracher ce qu'on avait déjà fait, et ça va être un exercice de mémoire plutôt que de réflexion sur le moment. Donc
surtout qu'il suffit qu'il y ait un mot de l'intitulé qui soit différent et le sujet est complètement différent.
Donc voilà, c'est plutôt un piège. Il faut réfléchir, c'est comme ça qu'on peut réussir son bac philo. On va poser la question en tout cas à Serge qui nous appelle du Val d'Oise. Serge, que voulez-vous nous dire ou que voulez-vous savoir? Nous vous écoutons.
J'ai une réflexion. Je suis enseignant. J'ai été enseignant et je me disais depuis toujours comment se fait-il que nous soyons obligés d'attendre la terminale pour travailler la philosophie, alors que la philosophie c'est quelque chose dont on est tous les jours. Les acteurs, dans la mesure où on doit réfléchir sur tous les sujets, la vie, la mort, l'amour, la différence, etc. Donc, effectivement, il me semble important de pouvoir avoir une réflexion argumentée et une méthode de réflexion. Et je pense que dès le plus jeune âge, on devrait pouvoir travailler la philosophie à l'école.
Merci pour cette question. Une question qui en rejoint d'autres, d'ailleurs, Olivier notamment, qui nous dit, peut-on envisager que la philo soit enseignée dès la 13e?
Mais il le faut. Merci pour cette question, Serge, en effet, et merci de lui avoir donné la parole, parce que c'est aberrant de voir que nous n'avons qu'une année dans notre vie pour étudier la philosophie. C'est-à-dire que bien sûr, l'épreuve au bac, c'est une question de méthode. Et là, il faut une certaine maturité intellectuelle pour y arriver. Mais le questionnement philosophique, les enfants sont bien meilleurs que nous. Ils n'ont pas tous les préjugés qu'on a. Ils posent les bonnes questions avant nous.
En quoi le fait d'aborder une question philosophique réclame en quelque sorte une préparation différente de celle qu'on peut avoir lorsqu'on étudie un texte en français, ce que l'on commence à faire dès les petites classes, Patrick Grenassia?
Oui, je ne partage pas totalement l'enthousiasme d'Adèle, parce que moi-même j'ai participé à des expérimentations de philo en lycée professionnel, où en principe il n'y a pas de philo, en maternelle, les ateliers philo en maternelle, donc effectivement il y a des expérimentations de philosophie à tous les niveaux, c'est intéressant, sauf que je ne vois pas pourquoi on se crispe sur l'étiquette philosophie. Qu'on puisse commencer à réfléchir en lycée professionnel, en maternelle, etc., ok, mais la polémique autour de l'étiquette de philosophie, moi, m'indiffère totalement.
J'allais justement vous poser la question de savoir ce qu'était la philosophie en maternelle, qu'est-ce que ça veut dire en troisième? Quelle est la spécificité, en quelque sorte?
En maternelle, ça se fait depuis plusieurs années. Effectivement, il y a des ateliers en grande section où les enfants discutent autour d'un thème, l'amitié, la mort, etc. Mais le constat principal, c'est le problème du langage. On philosophe avec des mots, on pense avec des mots. Or, ça dépend évidemment beaucoup du niveau de maîtrise du langage. En maternelle, il faut reconnaître qu'effectivement, ça tourne très vite en rond, ce genre de discussions. Elles ne sont pas inutiles, mais très élémentaires.
Bon, les rondes en maternelle, c'est pas inutile.
Et en terminale, ça suppose la maîtrise de ce qu'on appelait la rhétorique avant, capacité.
Évidemment, on ne peut pas enseigner la philosophie en maternelle de la même façon qu'on l'enseigne en terminale. Cela dit, prendre au sérieux les questions que vont poser un enfant, alors en maternelle ou en primaire ou au collège, et lui donner le loisir d'essayer d'y réfléchir, d'apporter des arguments pour et contre, quel que soit son vocabulaire, c'est quand même le geste même de la philosophie qui passe dans et par le dialogue. Alors là, il n'y a aucune raison de pas pouvoir le proposer dans un âge plus jeune qu'en terminale.
Votre avis, Thibaut de Saint-Maurice?
Oui, moi je pense qu'en fait, le fait qu'en France, depuis des décennies, l'enseignement de la philosophie soit réservé, on va dire, à la terminale, comme ça, dans cette sorte de tunnel unique, ça nous donne aussi un rapport assez univoque à l'enseignement de la philosophie et à ce que c'est que la philosophie. Mais en fait, moi je pense qu'il y a plusieurs, entre guillemets, philosophies, plusieurs manières d'enseigner la philosophie. Par exemple, moi je pense que, effectivement, il faut une certaine maturité, une maîtrise du langage pour développer des compétences vraiment spéculatives, c'est-à-dire vraiment de questionnement et de réflexion philosophique. Mais rien n'empêche de commencer plutôt une réflexion sur l'histoire de la philosophie, sur les connaissances philosophiques. Parce qu'il y en a beaucoup à assimiler, à accumuler. Et ça me paraîtrait pas totalement absurde d'avoir quelque chose qui soit de l'ordre de l'histoire des idées.
Alors ça, c'est pour les lycéens, quand même.
Même on pourrait quand imaginer dès la troisième. Enfin, voilà, en remontant, mais avoir comme ça une sorte de connaissance antérieure des grands mouvements de l'histoire des idées, parce qu'on sait bien que, voilà, aussi, dans la philosophie, il y a de l'histoire de la philosophie et que ça compte. Je trouve que ça serait pas absurde aussi de donner cette plus-value culturelle à nos élèves.
Mais c'est justement ce qui pose problème, j'imagine, Élie Sultan, à une époque où il est beaucoup question de la réforme du collège. La philosophie, c'est aussi avoir une perception de l'histoire, une perception particulière de l'histoire de la pensée, mais pas seulement. Si on réforme le collège et si un certain nombre de matières s'allègent, comment imaginer un enseignement de la philosophie qui demeure le même en terminale?
Alors après, je pense que l'enseignement de philosophie ne doit pas être réservé à la terminale, dans le sens où, au niveau des textes de français, on commence déjà à évaluer la portée philosophique de certains textes, on fait des textes argumentatifs, et ce, dès le collège. Et je ne pense pas que la philosophie soit en perdition de ce point de vue-là. Au contraire, on devrait utiliser des supports différents pour élargir les débats philosophiques.
Mais il faut distinguer deux choses. Il y a d'un côté l'histoire de la philosophie, les grands noms, ce dont vous parliez, Thibaut de Saint-Maurice, et effectivement, là, c'est absolument nécessaire. La philosophie ne serait rien sans cette histoire de la philosophie. Et là, il faut une maturité intellectuelle que n'ont pas les enfants ou même les élèves, disons, en primaire ou en collège. En revanche, le goût de la question, la curiosité qui permet, de encore une fois, de prendre au sérieux un questionnement qui, s'il est disqualifié, ne conduira jamais à ce goût de la réflexion, ça n'implique pas une forme de culture ni même une maturité intellectuelle que n'auront que les adolescents ou les jeunes adultes. Et les deux dimensions sont aussi importantes en philosophie.
Jean nous dit, la philosophie, ça ne sert à rien. Voilà, c'est un point de vue philosophique.
Je suis d'accord.
Ouais. La technique et l'économie dominent le monde. La philosophie ne sert donc à rien. Que peut-on répondre à Jean ? Peut-être que d'une manière brutale, il résume ce que pensent beaucoup de gens, hélas, aujourd'hui, Thibaut de Saint-Maurice.
Ouais, moi, je pense que la réponse, elle est dans la remarque de Jean, parce que il dit, voilà, la philosophie ne sert à rien, la technique économique domine le monde. Alors oui, la philosophie ne sert à rien parce qu'elle ne sert rien. C'est-à-dire qu'elle n'est asservie à rien, elle n'est asservie à aucun intérêt ou à aucune logique, on va dire, de domination. Et c'est précisément toute sa valeur. Ça, c'est une distinction hyper classique. Moi, ça m'est même arrivé de commencer une année de philosophie avec mes élèves en leur disant, voilà, je vais vous faire un cours qui ne servira à rien. La philosophie sort du registre de l'utile pour entrer dans celui de la valeur. Et leur faire simplement cette distinction entre ce qui est inutile et ce qui pourtant a de la valeur, quelque chose qu'on retrouvera par exemple dans le cours sur l'art, c'est une bonne manière de commencer en philosophie. Donc moi j'ai aucun problème à dire que effectivement la philosophie ne sert à rien.
Bon, on pourrait vous accuser d'être un sophiste, Thibaut de Saint-Maurice, tout simplement parce que même si la philosophie a évidemment de la valeur, je pense que même Jean qui considère que son enseignement est inutile, je pense que même Jean le pense. En revanche, apprendre par exemple à nommer les choses, apprendre à distinguer les problèmes, les questions, je ne crois pas que ce soit inutile, y compris d'ailleurs si l'on veut faire de l'économie ou des choses très éloignées.
J'avais envie de donner l'antithèse à Thibaut, effectivement. Je pense que la philosophie sert à quelque chose. Elle sert d'abord à avoir le bac, ce qui n'est pas rien. Elle sert à avoir un certain nombre de concours.
C'est un but modeste,
Patrick. En France, la philosophie occupe une place importante, heureusement, et elle permet d'accéder à un certain poste. Et puis, c'est effectivement un exercice de formation intellectuelle formidable. On le voit bien dans tous les domaines, que ce soit dans la publicité, dans la banque, etc. Un certain nombre de cadres sont issus de formations intellectuelles d'origine philosophique. Donc, je pense que la philosophie n'est pas au service des grandes écoles de commerce ou d'autres, mais qu'elle est un exercice intellectuel quand même utile.
C'est pour ça qu'elle a dit, je vais faire la synthèse du coup. Hein. Vous avez été des philosophes, thèse, antithèse, synthèse.
On n'ira pas jusqu'à la foutaise.
Commençons par elle, j'en sais rien. Mais en tout cas, sortons des plans en trois parties. Plus sérieusement, c'est quand même amusant. Ça me fait toujours rire de voir que c'est toujours à propos de la philosophie qu'on demande, mais à quoi sert la philosophie ? À quoi sert l'art ? À quoi sert le journalisme ? À quoi sert l'économie ?
Je peux vous rassurer sur les sciences humaines, on se demande assez souvent c'est inutile ou pas.
Ce qui est assez intéressant, c'est que
on se demande si c'est utile. Non,
ouais, mais le fait même de poser la question montre qu'il y a un malentendu. C'est que c'est effectivement, si on parle de la distinction de l'utilité, ça ne rapporte rien. Voilà.
Mais
c'est
moi, pas que ça sert à rien, c'est que ça ne rapporte rien. Je suis pas du tout d'accord avec vous. Je trouve que ça rapporte intellectuellement, ça rapporte énormément de choses. Je pense que lire Montesquieu est infiniment plus
mais
utile.
Mais ça rapporte, ça apprend des choses, mais ça ne rapporte rien au sens matériel. Quand on dit que ça ne sert à rien, j'entendais au sens
de nommer les choses, de distinguer un certain nombre de questions qui peuvent se poser dans votre vie pratique, dans votre vie de tous les jours. Et à mon avis, ça n'est pas si gratuit que cela. D'ailleurs, ça n'est pas un hasard si un grand nombre de philosophes étaient aussi des gens très pratiques.
Mais vous n'allez pas convaincre des philosophes que leur discipline sert à quelque chose, on est tous d'accord.
Je suis d'accord pour dire que ça apporte un certain niveau aussi de culture, un esprit critique aussi, une grille de lecture pour le monde actuel. Donc effectivement, ça n'apporte rien concrètement, mais ça permet quand même de réfléchir, ce qui n'est pas rien.
Ouais, si vous préparez le bac, écoutez bien, parce que là, on est en train de faire une disserte. C'est parti.
Ça sert avant tout à bien vivre.
On écoute philosophe Serge Gainsbourg, Lola Rastaquer, et tout de suite après, on continue à évoquer le bac avec les fuites, je les ai promises. On va les évoquer tout de suite après ça.
Rasta. sain, et c'est sain de se faire, entre lesquels j'abandonnais 2 mois de salaire pour y rouler mon pauvre joint.
Service public sur France Inter, révise ton bac philo. D'abord, nous sommes en compagnie d'Adèle Von Rett, productrice sur France Culture qui anime les nouveaux chemins de la connaissance et qui propose un spécial bac philo téléchargeable sur le site de France Culture. Élise Sultan, prof de philo également, qui publie Je sais philosophie, et Patrick Grenassia, qui lui anime le blog Philozène sur l'étudiant.fr, et enfin Thibaut de Saint-Maurice qui propose le philosophe du dimanche tous les dimanches matins sur France Inter à 6h47 avec beaucoup d'auditeurs qui veulent philosopher au standard. Véronique qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Véronique.
Oui, bonjour, j'écoutais votre émission et je m'étonnais de la question, enfin je m'étonnais en, au sens philosophique, j'étais contente d'entendre que la philo pourrait être agrandie au cercle de la terminale. Voilà, je fais un café philo avec des personnes qui ont un handicap mental. Je travaille dans une structure qui reçoit ces personnes et qui leur fait faire des ateliers. Alors, dans un autre lieu, on appellerait ça groupe de parole. Moi, j'appelle ça café philo parce que je leur fais parler de leur propre expérience de vie, et je relis cette expérience à une pensée qu'ils élaborent, et ça donne des choses tout à fait intéressantes. Par exemple, qu'est-ce que c'est que grandir, qu'est-ce que c'est qu'être adulte par rapport à être enfant, les grands sujets sur la vie, la mort, la différence, enfin toutes ces choses-là qui sont élaborées avec eux. Alors il faut qu'ils aient évidemment un peu de parole pour pouvoir le dire, mais quelquefois c'est très succinct, quelquefois il y a juste quelques mots qui sont posés et on peut à ce moment-là reformuler avec eux les réponses qu'ils donnent, et ça donne des choses étonnantes qui nous, en tant qu'encadrants, nous éclairent sur ce que c'est que la personne humaine, puisqu'ils ont, eux, l'expérience profonde de la différence et de du handicap qui nous révèle toute une part de l'humanité, de la fragilité qui est en nous. Voilà. Donc je voulais faire part de cette expérience-là. Il n'y a
Merci.
Pas que les terminales.
Merci beaucoup pour ce témoignage, effectivement, Patrick Grenacia.
Oui, merci pour cette question, parce que ça va être l'occasion de sortir de l'école, parce que je ne pense pas qu'il faille crisper la philosophie autour de l'école. Je pense qu'il faut déjà garantir qu'on fasse bien de la philosophie en terminale, et ce sera déjà pas mal. Par contre, il y a tout un champ qui s'est ouvert ces dernières années, en dehors de l'école, autour de l'école, les cafés philo, le succès étonnant d'une revue comme Philosophie. Personne n'aurait parié un copec sur cette revue, et qui aujourd'hui c'est une
Philosophie
revue...
Magazine, ouais.
Philosophie Magazine, qui est dans tous les kiosques aujourd'hui, les blogs, les revues, etc. Donc, je crois qu'il faut parier effectivement sur une diffusion de la philosophie en dehors de l'école. Et c'est son avenir. Elle est née comme ça dans la cité et elle est aujourd'hui en train de se diffuser dans la cité.
Et vous le savez, en France, nous avons différentes spécialités. Nous avons le bac, nous avons le bac philo. Thomas Chauvineau, notre reporter, est allé à la rencontre d'une Finlandaise, Lina, qui a 16 ans et qui est en train de découvrir les spécificités de l'école française, notamment par le biais d'une association AVS Vivre Sans Frontières. Elle a donc passé une année en France dans une famille d'accueil, dans une classe de première. Notre reporter Thomas Chauvineau est donc allé à la rencontre de Lina, cette jeune Finlandaise, et des élèves de sa classe.
D'après c'est notre propre histoire, le bac n'est pas une formalité, monsieur.
Exactement.
Pour la philo, ça va être compliqué.
Pourquoi ?
Parce qu'on n'a pas eu beaucoup de cours. On a changé 3 fois de prof et du coup,
c'est
on a
pas
regardé
trop bon
ce qui était probable de tomber, quoi.
Pour éviter de tout réviser.
Voilà.
Et alors, c'est quoi
la liberté. Ouais. Avec Charlie Hebdo, en plus, ce serait normal.
Quand on a des professeurs qui nous mettent la pression comme ça toute l'année, forcément, c'est beaucoup plus stressant, ça met plus de pression, puis on n'est pas sûr, même si on a des résultats corrects et qu'on travaille, ce qui est notre cas, on n'est pas forcément sûr de l'avoir, on n'est jamais sûr.
Et il ne faut pas mettre la pression, c'est pas bien? C'est pas une bonne méthode?
Je sais pas.
Si, enfin, moi, il faut nous pousser, mais pas nous mettre la pression.
C'est quoi la nuance?
Il faut nous pousser à réussir, nous motiver, etc., mais pas nous mettre la pression, nous faire stresser à tel point que voilà quoi, sur le moment on n'y arrive plus, on perd nos moyens. Voilà. Mais on l'aura. Moi je vise la mention bien.
Bon, toi du coup le bac là, contrairement à tes copines qu'on vient d'entendre, ouais, ça te stresse pas?
Bah l'oral de français me fait peur parce que je suis obligée d'être devant quelqu'un.
Maintenant que tu as passé une année scolaire en France, quel regard tu portes sur le système éducatif français?
Ici, à mon avis, les jeunes ne sont pas très autonomes. Les profs donnent beaucoup de pression, mais en Finlande, tu dois toi-même mettre la pression sur toi. Ici, les devoirs sont très longs, donc il y a un moment que tout le monde commence à faire un peu n'importe quoi. Mais en Finlande, on n'a pas beaucoup de devoirs, donc tu peux les prendre un peu plus sérieusement et tu as toujours le temps de les faire parce qu'il n'y a pas beaucoup. Ici, il y a les contrôles tout le temps. On doit étudier tout le temps, vraiment au maximum. Mais en Finlande, on a les semaines d'examen. Donc, juste pendant une semaine, tu dois vraiment forcer à étudier tous les jours et tous les jours. Mais pendant les autres périodes, tu peux être un peu plus tranquille. Et... En Finlande, tu choisis à peu près les matières que tu passes au bac. 4, c'est au minimum.
4, c'est un minimum, ouais, de matières.
Mais normalement, finnois, c'est obligatoire. Après, il y a le suédois, les maths, les langues comme l'anglais, le français. Et après, il y a juste une matière comme histoire ou géographie ou biologie.
Bon, mais ça va aller?
J'espère. Ouais, je crois.
Le reportage de Thomas Chauvineau auprès de Lina, donc cette jeune Finlandaise qui trouve que le système français est élitiste. L'élève a du mal, dit-elle, à s'en sortir. Il est moins aidé qu'en Finlande. Et l'association qui a accueilli Lina, l'association AVS, cherche des volontaires pour devenir famille d'accueil pour la rentrée prochaine. Tous les renseignements sur radiofrance.fr. Votre avis, Thibaut de Saint-Maurice, sur ces discours d'élèves qu'on vient d'entendre? entendre.
Oui, il y a plusieurs choses intéressantes. Moi, je voulais juste faire une toute petite remarque sur le fait qu'on a entendu au début une élève dire qu'elle avait changé 3 fois de prof ou pas eu de cours, pas suffisamment. Juste dire en une seconde que il y a plus beaucoup de profs de philo aujourd'hui et que parfois, donc, effectivement, il y a des remplacements qui se passent pas très bien. Voilà, il faut aussi penser à ça. Il faut renouveler le corps des profs de philosophie.
Il faut renouveler le corps des profs de philosophie. Élise Sultan, vous êtes vous-même prof de philosophie. En ce moment, vos élèves sont inquiets. On a entendu dans le reportage qu'il y avait évidemment une certaine appréhension. Ça se passe comment dans votre classe?
Alors, cette année, étant donné qu'il y a Hyacinthe, je n'ai pas repris, mais l'année dernière...
Votre bébé qui se promène actuellement même en régie.
Donc, les autres années, effectivement, ils sont de plus en plus stressés à l'arrivée du bac, et justement, la notion de pression là dont on parlait, dont parlait le reportage, il y a une sorte de... Enfin, le compte à rebours est lancé. Je pense pas qu'il y ait tant de pression qui soit exercée sur les élèves qu'on le dit. Effectivement, je pense que dans les autres systèmes, on favorise davantage les débats et moins les contenus comme on peut le favoriser en France. On essaye plus d'entrer dans l'histoire des idées. Et c'est peut-être ça ce qu'on entendait par pression. Je pense que c'est une bonne idée parce que ça nourrit les débats. Si on fait qu'un débat en classe, finalement les élèves, au bout d'un moment, ça tourne en rond, on n'a plus rien à dire. Donc je pense qu'il faut essayer d'allier un petit peu les deux, à la fois le contenu et... effectivement, favoriser l'oralité.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Élise. Le débat est utile, mais il ne peut pas suffire à lui-même. Quant à la pression, ça revient tout le temps, quand on écoute les reportages, les élèves, la pression monte. On a l'impression que la cocotte minute va exploser à la fin. Je suis un peu partagé sur cette pression. C'est-à-dire, d'une part, on peut se rassurer quand on voit les chiffres de réussite au baccalauréat. D'année en année, ils augmentent. Donc, à un moment, il faut arrêter de dramatiser les risques d'échec au baccalauréat. Ils existent, mais ils sont de plus en plus faibles quand même, vu les taux de réussite. De notre côté, cette pression existe parce qu'il y a tout un cérémonial organisé autour du bac philo, spécialement, c'est spécifique à la philo, du fait de ses épreuves, la dissertation qui est difficile, du côté aléatoire des sujets, le côté un peu loterie, et puis un aspect qu'on oublie parfois de signaler, qui est que le bac philo, ça ressemble à un rite de passage national. Les élèves ont peur, c'est la manière de passer à l'âge adulte, etc.
Ça remplace les 3 jours, puisqu'il n'y a plus d'armée pour tous.
Ça remplace
le service
militaire.
Le bac philo. On écoute Moby, Find My Baby, et tout de suite après, on continue à évoquer le bac philo. We'll be right back.
Service public sur France Inter, les révisions du bac philo en compagnie d'Adèle Von Rett, productrice sur France Culture des nouveaux chemins de la connaissance, de Hyacinthe qui gazouille. Il a 6 mois, Hyacinthe. Il révise le bac philo. Il est en compagnie de sa maman, Élie Sultan, qui est prof de philo dans le 94 et qui publie Je sais philosopher. Patrick Grenassia, lui aussi professeur agrégé de philo, qui anime le blog Philozen. Et enfin Thibaut de Saint-Maurice, le philosophe du dimanche, tous les dimanches matins sur France Inter à 6h47. Et puis nous avons Benjamin qui est en ligne. Bonjour Benjamin.
Oui, bonjour à tout le monde. Je voulais réagir à l'intervention de votre précédent auditeur là, qui était prof de philo, et lui dire que les enfants attendaient quand même pas 17 ans et la terminale pour apprendre les concepts de base de la philosophie qui gère notre société, hein, l'égalité, la justice, le respect, l'amour, enfin toutes ces notions-là sont déjà quand même bien comprises par l'enfant, logiquement, quand il arrive en terminale. Et le premier prof de philo de l'enfant, c'est quand même ses parents.
Ah, vaste question. Est-ce qu'on a 2 heures pour répondre à cela?
Là, la pression, l'effort pour les parents. Hein, c'est déjà.
Adèle,
déjà...
c'est à vous de répondre à la question de Benjamin, que nous remercions.
Avec plaisir, parce que ça nous permettra de dissiper un malentendu qui est très très fort en ce moment dans la société et qui explique peut-être en partie ce qu'on appelle la mode de la philo. C'est le fait de penser que là, pour faire de la philosophie, il suffit de se poser des questions, réfléchir à notre vie et en gros proposer des solutions. Et là, le malentendu, il est entre philosophie et, on va dire, développement personnel, voire psychologie, avec tout le respect que je porte et pour le développement personnel et pour la psychologie. Mais il ne suffit pas de poser des questions, d'enseigner, de transmettre un savoir à ses enfants pour faire de la philosophie. Et c'est là où moi j'insiste sur le goût des questions, la curiosité des textes. Mais il ne faut pas oublier que la philosophie, c'est aussi une histoire de la philosophie. C'est aussi un corpus de textes qu'on ne peut pas transmettre sans les avoir travailler au préalable. Il faut les deux. Donc, que les parents s'occupent de leurs enfants, leur apprennent à définir les termes qu'ils emploient, c'est une chose. Pourquoi pas, dans les meilleurs des cas, qu'ils proposent des concepts, je sais pas, réfléchissons à ce que c'est que l'égalité. Très bien. Je pense que peu de parents le font réellement parce que c'est pas non plus ça le rôle du parent. C'est à ça que servent les profs. Par contre, faut pas tout mélanger non plus.
On a effectivement une interrogation à ce sujet et du coup, on peut se demander, Patrick Grenassia, si la philosophie rend heureux. Nous connaissons des philosophes, vous en connaissez, et d'un point de vue empirique, on peut se demander si ça les rend heureux, parce que ça n'est pas toujours évident, Thibaut de Saint-Maurice.
Oui, enfin, les cordonniers sont parfois mal chaussés, comme on dit. Peu importe en fait de savoir si le prof lui-même, dans son expérience personnelle et dans son rapport à la sagesse et au questionnement, ce qui est important, c'est de savoir identifier pourquoi est-ce que on fait ce travail de transmission et de formation à la philosophie. Et puis, en revanche, il me semble que si on n'est pas convaincu que la philosophie va nous rendre heureux, peut-être on peut simplement être convaincu pour dire qu'elle va nous aider peut-être à mieux vivre. Après,
Notre dépression.
Voilà. Avec notre dépression, je sais pas. En tout cas, avec le monde tel qu'il est, avec les autres et avec ses propres questionnements aussi.
Je dois donner juste un exemple concret. Il y a une difficulté dans la vie que tout le monde rencontre à un moment ou à un autre, qui est le malheur amoureux. La rupture, la séparation, la détresse, la dépression. Et bien, paradoxalement, je soutiendrais que la philosophie peut permettre à un moment de se convaincre qu'il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi. Parce que généralement, on présente la philosophie comme la recherche des pourquoi. Mais il y a des choses pour lesquelles il faut renoncer à comprendre pourquoi. Sans quoi, on s'empoisonne.
Mais ça ne veut pas dire renoncer à comprendre, tout court.
Si,
comprendre, ne pas haïr, ne pas pleurer, mais comprendre, c'est Spinoza.
Je pense
que
dans
un enchanteur de chagrin d'amour, c'est très utile.
On peut être sceptique aussi et admettre que la philosophie permet de mettre des limites à la compréhension et d'admettre qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre au risque de s'empoisonner la vie.
Fabienne est au standard. Bonjour Fabienne.
Oui, bonjour. Bien justement, je vais enchaîner là-dessus parce que je trouve que par expérience, par témoignage autour de moi, qu'il y a des profs qui réellement ont renoncé à des profs de philo, ont renoncé à comprendre, à savoir pourquoi ils avaient des classes jusqu'au mois de juin, qu'ils ne suivaient pas leurs cours. Et ça, je trouve que venant de Paris, ça vient de certains profs. Bon, on va pas parler de tout le problème des profs, certains profs qui sont incompétents et puis qui continuent leur année. Mais par exemple, en juin, on arrive et puis tout le monde sait pertinemment que les élèves, pendant un an, ils ont rien fait, ils ont discuté d'autres choses, etc. Moi, ça m'est arrivé dans ma classe de philo, c'est arrivé dans la classe de philo de ma fille, et je sais que, voilà. Alors, est-ce qu'on repasse comme... C'est malheureux qu'un prof de philo, je trouve encore plus qu'un autre, bah, on a l'impression qu'il est renoncé à comprendre pourquoi bah, sa classe n'étudiait pas, pourquoi ses gamins, ils prenaient, tous ces jeunes ne prenaient pas le, voilà, l'opportunité de faire de la philo, alors que bon, c'est dommage, ils ont qu'un an, ils auraient dû en faire normalement depuis la troisième, à mon avis, mais voilà ma question.
Merci beaucoup Fabienne. Adèle.
Alors pourquoi un prof de philo plus qu'un autre? C'est dommage qu'il n'enseigne pas bien. Je pense que le prof de philo ne veut pas du tout être un modèle ni un sage. C'est pas parce qu'on fait de la philo qu'on est supérieur aux autres. Donc en ça, je ne vois pas quel est le problème. Moi, je ne souscris pas du tout au prof de philo bashing, hein, parce que je pense que de même que les élèves ont une grande pression pour passer le bac, les professeurs aussi. Les conditions d'enseignement ne sont pas toujours faciles. Le programme est très chargé. Les profs ne sont pas forcément là où ils souhaiteraient être. Donc sans vouloir prendre leur défense à tout prix, je pense qu'il faut essayer de faire la part des choses. Qu'il y a effectivement des profs qui peut-être faillent à leurs obligations, ne sont pas très bons en cours, et d'autres qui le sont très bons. Mais il faut éviter de généraliser, de prendre son cas particulier pour une règle générale, quoi.
Ça fait en tout cas gazouiller Hyacinthe tout ça. Marie, qui est à Lyon, nous dit: qu'appelle-t-on un philosophe aujourd'hui? BHL est-il un philosophe? On voit par exemple en ce moment beaucoup Michel Onfray un peu partout. S'agit-il d'un philosophe? S'agit-il de l'incarnation du philosophe, Thibaut de Saint-Maurice?
Alors c'est une question elle-même philosophique. Ça, c'est toujours un truc que les philosophes peuvent dire quand ils sont un petit peu embêtés pour répondre à la question. Moi, ce que je dis à mes élèves, c'est que parce que parfois on distingue un écrivain, un penseur, un philosophe, etc. Moi, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est ce que disait Adèle Van Rett au début, c'est-à-dire le trouver dans les textes de l'auteur le goût d'un questionnement et le souci du questionnement sur des questions, voilà, qui se posent de façon assez universelle. Mais il y a un deuxième critère qu'il faut pas oublier et qui quand même compte, parce que ça assure aussi de la cohérence du développement de cette pensée. C'est que le philosophe, c'est aussi quelqu'un qui va être en dialogue avec une tradition philosophique ou avec une certaine façon de poser des problèmes philosophiques dans l'histoire des idées, et qui va renouveler ou avoir un apport original dans cette discussion avec la tradition. Donc en fait, pour être philosophe, il faut non seulement mettre en œuvre le questionnement philosophique, mais aussi apporter sa pièce au débat et à l'histoire de la philosophie.
Votre avis, Patrick Grenassien?
Oui, moi je prendrais la question sous un autre angle, qui est que être philosophe aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'on cite comme exemple BHL, c'est en grande partie un phénomène médiatique aussi. Hein. Je ne mets pas en cause la qualité intellectuelle des gens, mais c'est les relais médiatiques qui créent à un moment tel ou tel nom qui vient sur le devant de la scène. On a besoin de grands intellectuels, même s'ils n'ont plus le même rôle politique qu'ils avaient dans le temps.
Un dernier auditeur au standard, Sébastien, je crois. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Ce que je voulais dire, c'est que voilà, j'ai passé mon bac en 91, donc c'était pas hier, mais j'avais quand même l'impression que tout au long de l'année et aussi au niveau du bac, c'était pas tant de la réflexion qu'on nous demandait, mais plutôt de pouvoir rattacher des concepts en les expliquant à un auteur. Et j'avais un peu l'impression que du coup, on était plus dans du contrôle de connaissances au niveau de ce qu'on attendait de nous dans les dissertations de philosophie.
Et oui, c'est effectivement un thème qui revient dans les questions. Élise Sultan, est-ce que la philo n'est pas extrêmement scolaire parfois, avec, en tout cas c'est ce que pensent certains élèves, l'idée qu'il faudrait donc aligner des citations de Kant, d'Hegel, pour être bien noté et avoir une bonne note au bac philo?
Il y a effectivement une part de contenu, et un professeur de philosophie peut très bien faire des contrôles de connaissances dans ce sens-là, et effectivement il y a des choses à savoir. Mais ça constitue pas le tout d'une réflexion philosophique. Hein. Il y a aussi la méthode, il y a aussi des exemples qu'on peut donner en dehors des sentiers battus, etc. Il faut pas s'en tenir à recracher le cours, c'est très pénalisé ça, au bac notamment.
Cela dit, c'est vrai que l'épreuve de philo au bac est d'abord une question de méthode. Si on maîtrise la méthode, on sait analyser un sujet, proposer une problématique et faire un développement avec des arguments et des exemples, on est sûr d'avoir la moyenne, voire même une bonne note. Ça ne veut pas dire que la philo se réduise à l'exercice de la dissertation. C'est pour ça que je fais de la philo à la radio, par exemple. J'essaie de proposer une autre manière de réfléchir et de mettre en acte la réflexion philosophique en dehors des salles de cours. Les deux sont tout aussi importantes, ne les mélangeons pas.
Allez, un dernier conseil très rapidement pour nos auditeurs qui passent le bac philo, Patrick Grenassien.
Eh bien, un conseil, c'est de réviser leurs cours quand ils en ont un. Sinon, il existe des tas d'autres supports pour réviser les notions, les auteurs. Et puis, un conseil que je donne de plus en plus, c'est de contrôler son expression écrite. Parce que je constate qu'au bac, comme au concours, il y a l'orthographe est à la mode, il y a une enquête. Et effectivement, il y a une dégradation de l'expression écrite qui est assez inquiétante.
Thibaut de Saint-Maurice, très rapidement. Alors, la grande nouveauté, ce sont évidemment les applications qui permettent de réviser le bac philo. Notamment, vous en proposez une sur Periscope.
Oui, moi, j'ai passé la journée d'hier sur Periscope, qui est une nouvelle appli qui permet de diffuser de la vidéo à partir de Twitter. Et donc, toutes les vidéos qui ont été faites hier, où il y a plein de conseils de méthode, vous les retrouvez sur la page campus.canalsat.fr et vous aurez plein de conseils de méthode et de révision.
Adèle Von Rett, vous proposez un spécial bac philo téléchargeable sur le site de France Culture. Élie Sultan, vous proposez Je sais philosopher aux éditions Ellipse. Bonne chance à tous pour le bac philo. Mercredi prochain, Nagui, un sujet philosophique du jour. Bonjour.
Oh là. Vous voulez m'en donner un de sujet philosophique?
Non, je veux discuter de philosophie avec vous, vous voyez.
Non, Guillaume, là vous cherchez les ennuis. Guillaume, je ne suis absolument pas de ce niveau-là. Moi, c'est à part pourquoi sommes-nous là? Où allons-nous? À quoi servons-nous?
Vous êtes là pour faire une émission qui débutera à 11h, qui s'appelle La Bande Originale, Nagui.
Et Francis Perrin sera notre invité. Nous avons un groupe qui s'appelle Beau, et qui porte bien son nom, puisque c'est deux filles qui sont absolument belles, et qui viennent des États-Unis, mais qui ont choisi un pseudonyme français.
Voilà. Et le beau est-il bon? Voilà un sujet de philo du jour. On vous écoute à 11h. Nagui, tout de suite après le flash.